à tout le monde.
Bonjour, bienvenue sur Radio FM Plus Montpellier pour la liberté des mers. J'aime le monde de la mer. J'aime aussi la chanter. Bonjour à vous, à toutes et à tous, marins, gens de la mer, amoureuses et amoureux des vagues. C'est maintenant l'heure de prendre la mer. J'ai rêvé l'autre soir d'îles plus vertes que le songe, nous disait le poète et marin Saint John Perse. Et oui, je vous invite à partir dans des îles plus vertes que le songe, des îles de poésie, des îles de femmes, des îles d'exotisme, des îles imaginaires également. Bienvenue à vous, amis de la liberté des mers, et une pensée également pour les Iliens et les Iliennes. Certaines sont précarisées par la montée des eaux, par exemple. Eh bien, je souhaite que 2024 leur garantisse des solutions et surtout une meilleure solidarité. Que cette année soit aussi celle de la concorde, de la paix, de l'amour, pour vous sur terre et pour vous sur mer. Si on entend René Guy Cadou et Michel Bernard, l'amour, on l'attend, comme on attend des navires, eh bien, et la paix, on l'attend. Qu'elle vienne, la verrons-nous pointer à l'horizon.
Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeurée la grande voix du temps. Je t'attendais et tous les quais, toutes les routes on retentit du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules, comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu me remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant c'était toi, dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait. Tous mes oiseaux, tous mes vaisseaux, tous mes pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Ah, que tu parlais bien quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir, ainsi qu'un vin nouveau, quand les portes s'ouvraient sur des villes légères. Allions tous deux enlacés par les rues. Tu venais de si loin derrière ton visage, que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même, ou tu serais en moi plus forte que mon sang. Tu venais de si loin derrière ton visage, que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même, ou tu serais en moi plus forte que mon sang. Dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeurée la grande voix du temps, qui écoute apeurée la grande voix du temps.
En ce début d'année, la liberté des mers vous emmène rêver dans les îles, et oui. Dès que le navire déborde, mais a fortiori lorsqu'on perd la côte de vue, s'établit une étrange attente. Alors, l'apparition d'un rivage dans la mer, eh bien, ça rassure, ça ravive l'intérêt, ça sollicite l'imaginaire aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? et le poète Jean Laude peint ainsi ce moment. La nuit se déchire, et c'est pour découvrir une nuit plus tangible et épaisse, et soudain, c'est l'étendue qui s'ouvre, le soleil dévale d'un seul coup, une barrière de falaises dorées surgit des flots et de la nuit. L'âpre ténèbre s'est convertie. Eh bien, écoutons maintenant un autre poète. Avec mes doigts impertinents, je creuse dans sa chevelure épaisse et je respire goulûment ta peau vanillée. Mon île aux fleurs de tiare, mon océan aux mille vents, le charme de l'instant opère une féerie de lumière sur le lagon entouré de couronnes de corail. Eh oui, bienvenue, bienvenue Christian Malaplate. Bienvenue dans la liberté des mers. Et grand voyageur,
merci.
Animateur de radio et surtout poète. Eh bien, Christian, puisque nous sommes ensemble pour voyager dans les îles, pourrais-tu m'expliquer comment un montagnard comme toi, né près du cirque de Gavarnie, s'est-il épris des îles ?
Alors, dans les années 70, je vivais à Paris et mes Pyrénées étaient bien loin de moi. Et comme j'aimais beaucoup marcher, des amis du cours Simon m'ont conseillé de me rendre à Belle-Île-en-Mer. Et la découverte de cette île, posée au large de Quiberon, au cœur de l'Atlantique, a été une magnifique expérience du contact avec une nature sauvage et préservée. Et puis, 80 kilomètres de sentiers côtiers, des paysages à couper le souffle, des sites naturels uniques, une faune et une flore remarquables. Et l'année suivante, je me suis rendu en Corse, une région empreinte d'histoire et de beauté, parsemée de villes aux mille couleurs qui attendent d'être traversées. Et j'ai découvert de petits villages enlacés par le relief des montagnes et ceux qui étreignent la mer, des moments inoubliables vécus. Et par la suite, j'ai découvert, beaucoup parcouru des îles par le monde et toujours avec le même plaisir de découverte.
Alors, au cours de cette émission, nous allons évoquer, bien sûr, tes escales dans les îles également. Mais parlons déjà du voyage et de la poésie. Parce qu'il m'apparaît dans tes ouvrages que tu dessines une étroite relation entre le voyage et la poésie.
Eh bien oui, parce que toute poésie est un voyage dans les bruissements des mots parmi les feuilles de route. Elle doit être un acte de présence au monde et les poèmes sont des lieux de rencontre parce qu'on retrouve le foisonnement de la vie dans les replis de l'âme. Les murmures du cœur deviennent des sons pour des échanges incessants entre le monde réel et le monde spirituel. Ils s'éloignent de la nuit d'exil. Ils reflètent les pulsations secrètes du corps, de l'univers ou de l'âme confondue. Et il faut éviter que l'univers soit orphelin de la parole pour que l'âpre feu du jour continue à illuminer la fleur de la nuit. La poésie est un voyage aux couleurs des mots sur les chemins de vie.
La poésie est un voyage, et oui. Et tu écris « On marche toujours vers une terre promise ». Alors, est-ce qu'une île peut être une promesse ?
C'est-à-dire qu'on marche toujours, bien sûr, vers une terre promise. Ce monde nouveau qu'on cherche au travers d'une forêt de symboles. On veut apprivoiser le mystère pour mieux l'humaniser. En marchant, on se retrouve relié au ciel et à la terre. Les pieds reprennent racine et la tête s'évade vers le haut. Il y a une dimension de quête spirituelle dans la marche. Il y a un très vif plaisir à profiter de l'énergie, du bonheur que nous renvoie la douceur de l'air, la clarté d'un ciel, la force d'un vent, un grand ravissement à contempler la beauté qui nous entoure. Je l'ai souvent ressenti sur de nombreuses îles que j'ai parcourues.
Alors, si je t'entends bien, s'embarquer, voilà, c'est formidable, c'est le voyage. On s'embarque volontairement ou on s'embarque des fois par simple défi, voilà, ou pour oublier quelque chose. Mais c'est souvent l'envie de partir par le chemin des mers avec la promesse de rencontrer la fortune dans toutes ses dimensions. Hein, c'est pas que la fortune pécuniaire, de rencontrer également d'autres hommes, d'autres femmes. Après Hésiode, Apollonius de Rhodes place les sirènes dans une île couverte de fleurs et d'un aspect riant de Méditerranée. Antemoessa, cette île, dans cette île, leur chant fascine les marins qui les écoutent. Oui, il n'y a qu'un pas à franchir. Il n'y a qu'un pas à franchir pour que l'île apparaisse comme une allégorie de la femme. Ainsi, Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, évoquait son séjour enchanté à l'île Maurice. Écoutons-le. une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Telle une femme, l'île transformerait la vision du monde. Une île n'a pas de corps, mais c'est une maîtresse, écrit Bernard Raux à propos de l'île de Groix.
De quelle source lui vient son nom ? Est-ce de fée ou de sorcière ? Ou de quelque bois en fer, comme la boue de ses sillons ? On dit que l'on y voit sa joie, on dit que l'on y voit sa croix. Je parle de l'île de Groix. Malheur à celui qui débarque, il n'aimera pas ses hivers. Il trouvera ses quais déserts, car le flot seul mène les barques. Mais essayez de foutre le camp, elle vous aura au sentiment, comme femme retient l'amant. L'hiver la tient en prison pour mieux la coucher au printemps. Premier soleil sur les buissons, il n'y aura plus de gelée. L'eau de ses ports est froide encore, mais fleurissent les boutons d'or, et le goéland a prié sort. Si à travers mes yeux mi-clos, il me plaît à revoir Juillet, je sens l'odeur du goudron frais qu'on passe aux quilles des bateaux. La menthe des sournois ruisseaux lutte avec l'odeur des sureaux, de la vapeur tremble sur l'eau. Les vieux parlent du temps passé, alors que Maria et Portudie. Si vous ne comprenez pas, tant pis, moitié français, breton, moitié. On dit que l'on y voit sa joie, on dit que l'on y voit sa croix. Je parlais de l'île de Groix.
Eh bien, c'était Gilles Servat qui nous parlait de l'île de Groix. Gilles Servat, que j'ai bien connu, j'ai même fait des concerts avec lui lorsque j'habitais en Bretagne. Merci Gilles. Eh bien, chers amis de La Liberté des Mers sur FM Plus Montpellier, nous voguons d'île en île en compagnie de moi-même, Jean-Marie Kiès, et puis du poète Christian Malaplate. Parlons des îles, c'est un monde en soi. Au cœur de la mer, au centre de bien des rêves et bien des chefs-d'œuvre également. La mer est à tribord et à bâbord. C'est le plus grand chemin du pays, c'est le chemin de la mer, déclare le héros Solibo dans le roman de Patrick Chamoiseau. Reviens et repars, dit l'espace au temps, je serai là, toujours là, écrit Malcolm de Chazal, poète de l'île Maurice. De Gilbert Aubry à Guy Tyrolien, j'ai recensé une bonne trentaine de poètes nés dans une île et qui la chantent. Que représente-t-elle pour eux ? Eh bien, il y a quelque temps, nous avons reçu ici, dans La Liberté, la tahitienne et poète Chantal Millot. Eh bien, voilà ce qu'elle nous écrit. Pour un continental, un rêve de voyage se rapporte souvent à l'île. Mais pour une habitante des îles, n'est-ce pas plutôt le contraire ? Aux horizons de la terre s'accrochera parfois la nostalgie des îles. Tu dis que l'île est un désir, tu dis que l'île est un secret, écrit Michel Ducasse, lui aussi poète de l'île Maurice. Comblement du vide, image retrouvée, une terre isolée, quelque chose de mystérieux et de rêvé, d'étrange et d'exotique qui appelle le désir de partir, d'y aller, ou le désir d'y retourner. Ainsi, Gilles Lapouge, écrivain et voyageur, dit Je vais parmi les îles, elles surgissent et elles s'en vont, elles sont posées sur la mer. Elles forment une mince entaille de brume ou de clarté dans l'infini, elles frissonnent, elles se déforment et elles resplendissent. Dis-moi, Christian Malaplate, que recherches-tu dans les îles ?
Pour moi, une île est un lien rompu avec le reste du monde, a priori. Chaque île est unique. Je prendrai pour exemple mon séjour en Polynésie française. Ce qui m'a beaucoup le plus marqué sur l'île de Tahiti, c'est de regarder et de sentir la nature. C'est de fouler sa terre et remonter ses rivières, écouter le bruit des cascades, grimper sur les pentes du volcan et même pénétrer au cœur de son cratère. Depuis le mont Oreana, point culminant de l'île Tahiti, 2241 mètres, les coulées de lave ont dessiné des vallées pour aboutir à la mer. Sur le marché de Papeete, je découvre tous les produits de la terre et de la mer, provenant de toutes les îles et même de tous les archipels, dans une profusion de couleurs et de senteurs, dont celle de la vanille et du monoï, l'huile de coco. L'île de Bora Bora, que beaucoup de gens appellent la perle du Pacifique, est un incomparable jardin de corail, au lagon splendide, qui m'a paru comme un immense contraste de couleurs et de lumière. Et l'île de Moorea paraît plus sauvage que l'île de Tahiti. Quand on arrive par bateau dans la petite baie de Vaer, on voit se dessiner un cirque de parois sombres, une ligne de crête découpée et la silhouette de sa flèche trouée. On passe tout près de récifs éblouissants de blancheur avant de pénétrer dans les couleurs du lagon.
Ah, que les îles de Polynésie ont évoqué de nombreuses choses, beaucoup d'exotisme, une nature originelle, merveilleuse, abondante, où l'on peut vivre nu et innocent. Les îles Fortunées sont un doux fantasme chanté depuis très longtemps par les poètes. Ainsi, Ronsard nous dit « Poussons la nef vers les champs bienheureux, au port heureux des îles bienheureuses. Là, nous vivrons sans travail et sans peine. » Panurge, lui aussi, fera route vers les îles. On se les imagine, on les dessine sur les cartes comme des endroits exotiques, étranges, enchantés, hors des routes humaines, ouvrant souvent la porte d'autres univers. Le portugais Fernando Pessoa nous dit « Ce sont des îles fortunées. Ce sont des terres de nulle part. Écoutons ensemble « Terre lointaine » de Christian Malaplate. Je t'écris une terre lointaine, où les vents viennent se calmer et où les eaux s'étalent lentement. J'ai pour compagnons des oiseaux de mer, des lézards dorés, des phoques paresseux, des iguanes sentinelles, des crabes musiciens et des tortues curieuses. Au large, des dauphins espiègles me font souvent signe. Je t'écris d'une terre lointaine où les mots trempent dans l'iode marine et dans le parfum suave des fleurs sauvages. La douleur s'efface peu à peu. J'ai dit aux rochers qui m'entourent combien les sentiments profonds creusent la vie. Je t'écris d'une terre lointaine où les jours ne comptent plus, parce que les nuits sont trop belles et pleines de poussière d'étoiles. Je ne rêve plus. Ici, les couleurs sont chaudes et odorantes. Je t'écris d'une terre lointaine, j'habite dans une large grotte. Elle abrite des nids, des peintures primitives et des crânes polis. Le passé se dilue dans l'écume. Le présent se savoure dans le jus des fruits et dans les odeurs appétissantes des poissons cuits aux herbes sucrées et au bois de santal. Je t'écris d'une terre lointaine où aucun drapeau ne flotte, non ? Je vois de tous côtés l'horizon. Tu trouveras dans la bouteille que je viens de jeter à la mer des pages oubliées, des phrases étirées, des mots déplacés, des testaments raturés et des cris inutiles. Je me suis débarrassé de tout cela. Christian Malaplate, merci pour cette très jolie poésie que j'adore, mais où cela se passait-il, cette île ? Alors, que reste-t-il de ce séjour aujourd'hui ?
C'est une île dans le Pacifique Sud, exactement, un motu, parce que c'est comme ça que ça se signale certaines îles, ou le motu, dans le lagon de Bora Bora. Et comme souvenir, j'avais la beauté du lagon, les couleurs du corail, les nuits étoilées et surtout une belle rencontre, la rencontre avec Paul-Émile Victor qui habitait justement dans le lagon de Bora Bora et qui venait souvent à On se croisait souvent à Bora Bora et il avait un restaurant particulier où on allait manger souvent ensemble. Et il arrivait que pas loin, il y avait le Club Med. Et chaque fois qu'il venait voir Paul-Émile Victor, il posait des questions. Et lui, il en avait un peu marre à la fin. On lui posait toujours la question, qu'est-ce que vous retenez des Paul? Lui, il répondait, c'est les amours délirants des phoques et des manchots. Donc, ça a arrêté la conversation.
J'ai une petite pensée pour un Brestois, Jean-Michel Caradec, qui nous a quittés il y a déjà longtemps. Et voilà ce qu'il nous disait lorsqu'il nous parlait des îles. C'est un jour au milieu de la mer, lorsque l'écume blanche souligne d'un trait gras le morfil bleu de l'horizon. Eh bien, écoutons Jean-Michel Caradec.
Île, tu es née de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues. Île, tu surgis de l'oubli, ton paysage naît dans les nuages. Oh, île, fille de l'infini, narguant la mer, narguant le ciel, l'étoile. Oh, île, je t'appelle à la vie et dans la mort, comme une pyramide. Oh, île, avec tes vents d'oiseaux, tes chants d'oiseaux, et moi qui suis en cage. Oh, île, où dansent mes enfants, petits et grands, en sortant de ma tête. Oh, qu'un jour je partirai, m'endormirai pour mon dernier voyage sur l'île. Fille de l'infini, narguant la mer, narguant le ciel, l'étoile.
Chers auditeurs et auditrices, merci d'être toujours avec nous sur La Liberté des Mers, sur Radio FM Plus Montpellier. Eh bien, nous sommes en compagnie de Christian Malaplate, poète lui-même et animateur de l'émission Traces de Lumière sur Radio FM Plus. Et il est également secrétaire de la Société des Poètes Français pour la région Occitanie. Et c'est surtout un très bon ami. Merci d'être là, Christian.
Merci Jean-Marie de m'accueillir.
Si dans les îles, tous les chemins mènent à la mer, celui des îles a longtemps été gardé secret par les navigateurs pour des raisons de concurrence. Aujourd'hui encore, un seul quart est vraiment répertorié sur les cartes. On a l'impression qu'avec les satellites, on sait tout. Non, non, non. Les satellites ne regardent que les lignes navigantes, c'est tout. Le reste, on ne connaît pas. Il y en a des millions d'autres îles qui gardent leur mystère. Eh bien, en miroir, la littérature s'est emparée de ce sujet passionnant du mystère et nous conte des périples maritimes où vont percer des secrets. Et ces secrets sont jalonnés d'étapes initiatiques pour y arriver, n'est-ce pas ? Les enfants connaissent bien ça. Ainsi, les grandes épopées de Jason, accompagnées par le poète Orphée, et puis également les épopées d'Ulysse, l'Odyssée. Le premier, à l'image de bien des aventuriers, est la fortune et le pouvoir, tandis que le second, comme beaucoup de marins, tente difficilement de rentrer chez lui. Comme beaucoup de marins, surtout ceux qui sont bloqués dans des ports parce qu'on ne les paye plus et que leurs bateaux ne sont plus navigables. Chez les Celtes, Bran, dans sa quête du jardin d'Éden, aborde des terres qu'il pense être le paradis. Il a vraiment navigué, hein, faut savoir. L'histoire du Graal médiéval est-elle aussi sommée d'îles mythiques, dont la sixième est la Grande-Bretagne? Eh bien, c'est là qu'au terme d'un long périple, Joseph d'Arimathie et son fils Joséphée déposeront la sainte relique. Sous la sainte Roseline, ou Roseline, c'est un lieu devenu célèbre ou redevenu célèbre grâce au roman du Da Vinci Code. Pour d'autres îles, c'est le lieu où finit un monde et débute une nouvelle ère, comme Patmos, où fut écrit le texte sacré de l'Apocalypse. On signalera longtemps des îles dites de lumière, aux confins de terre habitables. Là, iraient les bonnes âmes après le trépas. Ah, les autres, les perdues, elles sont abandonnées ici ou là, sur des rochers, où elles vont être méchantes dans cet endroit, comme à Thévenec, en Bretagne, où on les entend qui hurlent la nuit, près de la baie des Trépassés. On y trouve aussi dans ces îles des morts glorieux et méritants, comme à Lecé, Fidonisie, en mer Noire. Dans cet antique lieu de pèlerinage, qui continue à être un antique lieu de pèlerinage, eh bien, il était surtout jadis fréquenté par des marins, maintenant il y a des gens qui viennent de partout, Achille, le héros de la guerre de Troie. C'est là qu'il repose, en compagnie d'autres héros de la guerre de Troie. Puisqu'il s'agit d'une terre bienheureuse, eh bien, le petit temple grec qui était construit sur l'île protège également une immense réserve de pétrole et de gaz, objet d'affrontements sanglants actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Revenons à notre imaginaire et à nos rêves. Ben oui, la croyance en ces terres idylliques, elle est largement partagée sur le globe. On a envie de partir quelque part. Puis quand on est dans une île, on a envie d'aller vers le continent. Eh bien, en Nouvelle-Guinée, on parle d'Adiri. En Malaisie, on parle de l'île des fruits. Au Japon, on parle, bien sûr, vous connaissez Sipango, le secret pays de l'éternelle jeunesse. Les Polynésiens situent le domaine souterrain et sous-marin de Pulotu du côté des Tonga ou des Fidji. On y pénètre par un trou sous la mer, visible à marée basse, juste en atteignant la ligne d'horizon, là où la mer rencontre les nuages. Ah, les croyances dans les îles paradisiaques prennent forme dans les légendes. Eh bien, chers amis, les croyances dans les îles paradisiaques prennent forme dans des légendes. Cher Christian, je vais évoquer ici celle racontée par Jacob Rojovin, découvreur hollandais de l'île de Pâques, le 6 avril 1722. Il nous parle de gigantesques statues, bien sûr, mais il raconta aussi y avoir vu des feuilles de bananier si grandes qu'elles avaient dû servir à Adam et Ève pour cacher leur nudité. Eh bien justement, Christian Malaplate, puisque tu as séjourné à l'île de Pâques, dis-nous, a-t-elle quelque chose du paradis ?
Oui, il est important à tout voyageur de faire une approche des légendes et des mythes pour mieux approfondir et ressentir les vibrations du Nil. Il faut connaître la terre des origines. L'île de Pâques a l'histoire et les mystères d'un bout du monde. Il n'existe guère d'île aussi isolée dans les océans. Elle est surtout le symbole fascinant de la mémoire humaine. Les navigateurs polynésiens y virent le bout de l'horizon promis par leur dieu. Là est le parfum envoûtant de ces statues dressées ou couchées toutes sculptées, renfermant en elles l'essence d'un au-delà. Face à ce qui est au-dessus ou au-dedans de toute chose, de tout être, la mémoire pasquane n'est ni morte ni liée à une subjectivité illusoire. Comment cela un témoignage qui tente de donner forme à cette dimension spirituelle? Cette veine souterraine mystérieuse qui hante les mythes de toute l'histoire de l'humanité. Pour les habitants de l'île de Pâques, le rocher, la pierre, la matière ne sont qu'un état de l'énergie qui habite notre univers. Cette pierre est tout comme nous, infinie et composée de matériaux qui existent dans notre propre corps. Elle possède une mémoire. la mémoire de l'île, mais aussi l'empreinte du Créateur. Ce que nous partageons n'est pas un culte de la pierre, mais une initiation à l'énergie sacrée.
Et voilà, beaucoup recherchent ces îles de l'immortalité quelque part. Eh bien, l'empereur chinois Qin Shi Huangdi, il y a environ 1300 ans, recherchait déjà, il avait envoyé des explorateurs pour rechercher une île d'immortalité. Des rois de France à Napoléon, plusieurs missions très coûteuses seront expédiées vers les mers australes à la recherche d'une hypothétique île aux oiseaux, chaude et féconde. Pensez donc, il s'agit de Kerguelen. Eh bien oui, même Kerguelen, le navigateur, assurera les avoir trouvés. C'était normal, parce qu'il voulait toucher ses émoluments après avoir navigué. Eh bien non, pas du tout. Elles sont plutôt froides et inhospitalières. Hélas, elles porteront le nom de d'île de la désolation, comme île paradisiaque, il y a mieux. Et pourtant, de loin en loin, toutes ces chimères pousseront l'Occident à la conquête du monde. Ces cailloux jetés dans la mer seraient-ils les morceaux d'un paradis perdu? Le poète Louis Capard emploie cette image à propos de son île, l'île de Saint. Écoutons-le.
Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, l'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On se croyait au paradis en ce pays. Chante-nous si tu t'en souviens pour passer le ras de Saint, le cantique à Sainte-Marie qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Pour de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, l'île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil, veille le fanal de la vieille, on mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, les morts vont au ciel. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, l'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux que l'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçante. Elle vient jeter la peur sur les naufragés, et le noir habille la vie des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, l'île de Saint. La vie a changé sur le court chemin du Néron à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent, même les anciens ne reviennent qu'au printemps. Et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux. Elle entraînera les marins loin de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins, l'île de Saint.
Oui, l'île de Saint, de temps en temps j'y pense, cette île complètement au ras de la mer, dont vous pouvez voir des images sur tous les jours de tempête. C'est une île de femmes aussi, bien entendu, beaucoup de femmes, puisque quand les marins sont en mer, eh bien, ce sont les femmes qui font tout à la maison, mais qui font tout dans l'île aussi, et qui cultivent, ces femmes omniprésentes. Eh bien justement, nous allons parler d'une femme, Odette de Puigaudeau. Odette de Pigaudeau a écrit un ouvrage qui s'appelle « Grandeur des îles » que vous pouvez encore trouver parce qu'il est régulièrement réédité. Nous allons parler d'elle. Vous voguez sur la liberté des mers de Radio FM+, en direction des îles, en compagnie de Jean-Marie Kies et son invité, le poète voyageur Christian Malaplate. Avant de parler d'Odette de Pigaudeau, dis-moi Christian, comment naît le goût du voyage ?
Alors je me réfère toujours à Marcel Proust qui écrivait « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard ». Et je peux ajouter que le monde est toujours aussi surprenant. La vie rebondit dans de nouveaux espaces. Et mes carnets de route évoquent à la fois un voyage intérieur, une exploration d'une terre inconnue, parfois un voyage initiatique. Et dans mes carnets de route, je parle beaucoup des peuples rencontrés, des émotions ressenties, des choses vues et entendues. Pour moi, le voyage intérieur nous conduit à une réflexion sur la naissance, d'instant en instant, de nous-mêmes, de notre relation aux autres et au monde.
Merci, je sais que tu as parcouru, aimé et chanté aussi le désert, puisque nous allons parler de Pigaudeau. Eh bien, cette grande femme, cette grande voyageuse, non seulement aimait la mer et la pêche également, mais elle aimait les déserts. Écoute, le Dieu est universel, il est aussi la longue piste. Accompagnons les méharés, les prières voyagent parmi les bastions volcaniques du Tiberti, les vastes plateaux. Aux contours érodés, les sillons secs des ouèdes et les rares points d'eau permanents. Un vent chargé de sable et de poussière se déploie sur plusieurs milliers de kilomètres. Et oui, tu es aussi un homme du désert. Hein.
Oui, il y avait trois étapes importantes dans ma vie que je voulais absolument faire. C'était le Sahara, l'Annapurna et ensuite la Cordillère des Andes. Ça a été mon rêve et j'ai réussi dans ces trois étapes.
Eh bien voilà, c'est une rencontre maintenant avec Odette de Pigaudeau qui a autant aimé la mer que les déserts. Dans cette émission La Liberté des Mers, on a souvent évoqué des femmes aventurières comme Jeanne de Belleville, Ella Maillard, Virginie Herriot, Catherine Poulain. Eh bien, je te propose maintenant, Kate Christian, de partir en compagnie d'une océanographe et ethnologue qui a passé sa vie entre l'eau et le désert, Odette de Pigaudeau. Elle porte un magnifique regard sur les îles de Bretagne et particulièrement sur celle dont nous avons parlé tout à l'heure, l'île de Saint. La chanson de Louis Capard. Écoutons donc son arrivée à l'île de Saint.
Je vis un petit village breton tout tranquillement posé sur l'eau. Il semblait flotter comme si rien ne l'attachait par-dessous. C'était l'île de Saint. Le sloop vint se ranger le long de la cale de la poste. C'est alors que je vis ma première hyène. Elle était grande et souple, bien moulée dans le corsage ourlé de velours de sa longue robe, toute noire depuis ses sabots jusqu'à la capeline de drap aux ailes croisées sur le dessus de sa tête. L'île m'épiait avec ses yeux verts, ses prunelles étranges, ses yeux sertis de cils noirs où dormait on ne sait quel mystère marin.
Merci à Odette de Pigaudeau qui évoque l'île de Saint dans son ouvrage « La grandeur des îles ». Eh bien, cet auteur nous plonge d'emblée dans un univers né de l'acharnement à vivre, d'un fragment d'humanité amené là par quelques rudes et mystérieux hasards, dit-elle. Cette femme, Odette de Pigaudeau, porte un magnifique regard sur toutes ces îles de Bretagne. C'est une voyageuse, écrivaine, exploratrice du Moyen-Orient. Elle est née en 1893. Elle est née à Saint-Nazaire, un port. Elle passe son enfance au Croisic. Dès 1920, elle souhaite tenter l'aventure à l'image d'Alexandra Davinil ou de Freya Stark. Malgré ses études d'océanographie, on la refuse au laboratoire marin de Carthage, puis sur l'expédition Charcot où elle devait partir. Et on la refuse parce qu'elle est une femme. En 1928, elle s'embarque à la pêche sur la baie de l'Épée pour la crevette et le thon. Là, dit-elle, j'ai appris à travailler la nuit et à dormir le jour. J'ai appris à manger et dormir à la manière des synagogues quand ça se trouve comme des chiens. Évadée de soi-même, aussi libérée pourtant. Elle publie pour le journal L'Intransigeant à la fin de l'année 1930 deux articles sur le monde marin. Une femme avec les tonniers de Concarneau, puis une série de reportages pour Femmes de France et l'Ouest éclair. Grandeur des îles, c'est un magnifique point de vue, moment de plaisir intense où la légèreté de la plume nous plonge dans un univers né de l'acharnement à vivre, en dépit de toutes les forces adverses. C'est un fragment d'humanité amené là par quelques rudes et mystérieux hasards. En 1933, avec sa compagne Marion Sénonès, Odette de Pigaudeau, choisissant la vieille route négrière, part alors pour l'Afrique occidentale française sur un langoustier breton surnommé la Belle Hirondelle. Le 28 novembre 1933, on lève l'ancre de Douarnenez. Ce sera l'autre facette de ses aventures d'ethnologue. Elle quitte la mer pour le désert. Eh bien, écoutons deux très beaux chanteurs, de très belles voix, qu'on ne connaît pas beaucoup finalement, mais que vous allez découvrir, chers auditeurs, chères auditrices, Hélène et Jean-François. Ils évoquent justement Saint-Nazaire, la ville d'origine d'Odette de Puy-Godeau.
Et la Brière, entre Pinouette et puis la guerre, on vit sa vie. À Saint-Nazaire, le ciel est gris bien trop souvent, les nuages dansent avec le vent, c'est pas plus moche qu'à Manchester. À Saint-Nazaire, où c'est les grues qui tendent les bras, un marin du Jean-François qui a pas encore péri en mer. À Saint-Nazaire, derrière le port, y a des bistrots qui sentent la vase et puis le maquereau et du rouge dans des verres à bière. À Saint-Nazaire, des fois par les jours de suroir, ça sent le mazout et pas le feu de bois. Monsieur Pétrole fait des manières. À Saint-Nazaire, il y a très longtemps, c'était la lande où les beaux yeux couleur d'Irlande se noyaient entre ciel et mer. Mais Saint-Nazaire, c'était aussi tous les copains, les filles et les jeudis matins où l'on traînait. À Saint-Nazaire, pour revenir le printemps, et les mouettes comme des cerfs-volants planaient d'amour sur l'océan. C'était le bon temps où l'on s'engueule avec son père et où on se croit dans la misère d'avoir 16 ans. À Saint-Nazaire, entre la Loire et la Brière, entre Pinouette et puis la guerre, on vit sa vie.
Jean-Marie Kies sur Radio FM Plus Montpellier sur la liberté des mers. Vous naviguez avec nous et en compagnie de mon invité passager, Christian Malaplate. Dis-moi Christian, tu souhaites peut-être parler de tes récentes publications et de tes projets aussi.
Alors je viens de publier des carnets de route qui a pour titre « Des nuages blancs, haut et sublimes » de l'Inde au Népal en passant par le Ladakh, le Sikkim et l'Assam. Et dans la deuxième partie du livre « Carnet de route sur les chemins de vie ». Alors là, je vais en Chine, au Sahara, où j'ai vécu pratiquement 2 mois, à l'île de Pâques, en Polynésie, au Pérou, en Égypte, et bien sûr, le lieu que j'aime beaucoup dans l'Aveyron, c'est Conques. Et j'anime sur Radio FM+, 91 FM Montpellier, tous les lundis de 11h à 12h, l'émission « Traces de lumière », qui a pour but surtout de faire découvrir des poètes, des écrivains, des musiciens, des peintres, des personnages connus, inconnus ou méconnus, qui par leur quête laissent dans nos vies des traces de lumière. D'aller à travers mes carnets à la rencontre d'autres religions, d'autres peuples, d'autres paysages, d'autres regards, d'autres présences. et l'émission est surtout axée sur la poésie en grande partie, et je vais à la découverte de la voix du poète qui se nourrit des sillons de la terre. Et je continue à animer des soirées de poésie une fois par mois à la salle Pétrarque et aussi au Gazette Café.
Quel investissement pour la poésie, c'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup les
la poésie, c'est une aventure. Hein.
Oui, c'est une aventure, oui. Oui.
Et surtout, le plaisir d'avoir fait de belles rencontres. Voilà.
Et je trouve pour les poètes qui disent leurs textes sur scène comme ça, de se confronter en fait hein, à l'écoute et au regard des autres, ça ne doit pas toujours être facile, mais en même temps c'est formateur.
C'est formateur. Moi j'ai commencé au cours Simon à Paris, et après plus tard j'en ai dans des cabarets dire de la poésie.
Et oui, et tu, ça fait longtemps que tu travailles sur des radios aussi.
Ben, j'ai commencé l'aventure, elle a commencé pour moi, l'émission Traces Lumière est née le vendredi 18 mars 1977 à 15h sur le Mont Garlaban, cher à Marcel Proust à Marseille. Voilà. C'est une radio dite plutôt engagée, on appelle ça, faite par une radio qui avait une signification plutôt syndicale, qui montrait le monde ouvrier en Provence.
On appelait ces types de radios, on les appelait des radios pirates. Il y en a eu quand même quelques-unes. Oui. Elles étaient quand même assez pourchassées par le pouvoir en place.
Ben, c'était l'exemple qu'on avait. Nous, on émettait 4 heures par jour. Et puis après, on s'échappait avec notre pauvre 4L. On ne voulait pas être poursuivi. Mais c'est surtout aussi que ça nous a permis de donner la parole à beaucoup de gens, comme par exemple le monde du chantier naval de la Ciotat, qui avait beaucoup de petits problèmes. Il y avait les raffineries de Fos-sur-Mer et puis le port autonome de Marseille, sans compter aussi les quartiers de Marseille qui arrivaient à s'exprimer.
Comme quoi la poésie, c'est aussi l'engagement, c'est oui. De parler des choses de la vie en fait. Ce n'est pas les cacher. Voilà, c'est en parler et d'une certaine façon et les raccrocher aussi avec, je dirais pas le sens profond de la vie, puisque certains pensent qu'il n'y a pas de sens à la vie, mais aux racines profondes de la vie en fait.
Et ce qui m'a amené à parler justement d'île ou de mer, c'est pour tout la rencontre avec Louis Brouquier que j'ai rencontré à Marseille, puisque c'était un Marseillais qui naviguait jusqu'au bout du monde, puisqu'il allait jusqu'en Chine. C'était un commandant de marine marchande, et en plus un grand poète. Et quand il revenait, on avait plaisir à l'écouter dans ces textes-là. C'était merveille, parce qu'on avait l'impression qu'il nous avait embarqués, quoi.
Et il nous embarque.
Oui, oui.
Il nous embarque. C'est, je dirais pas mon livre de chevet, mais presque. Brouquier, je le sors tous les jours, j'en ai besoin. C'est que ce soit de la ville de Miremont aussi, oui. Qui écrivait lui à partir de Paris. Simplement, il n'a jamais navigué, mais Brouquier, lui, est un vrai marin. Mais quand on viendra le printemps des poètes, je pense qu'on fera une émission spéciale. Et j'avais l'intention d'évoquer le fantastique des ports avec Pierre Macorlan. Et puis, j'aurais bien voulu parler aussi de Brouquier, donc on en reparlera. Mais voilà, parce que je trouve que c'est une poésie. C'est deux façons très, très différentes de vivre l'aventure et l'aventure de la mer. Macorlan était un aventurier en chambre, justement. Ça ne l'a pas empêché de beaucoup voyager quand même, hein, bien sûr, comme grand reporter notamment. Mais Brouquier, lui, ce n'est pas une aventure non plus, mais c'est un marin qui...
Par le monde, lui.
Voilà, il se déplaçait de par le monde. Et c'est quelqu'un qui nous en parle tellement bien, qui nous parle tellement bien aussi du monde des équipages, du monde des marins. Alors, puisque nous parlons des îles, ben voilà, je me suis dit quand même, c'est bien joli, on parle des îles paradisiaques, on parle des îles bienheurées, voilà, des endroits où peut-être on peut trouver l'immortalité, des endroits qui ressemblent à des femmes, puisque quand on dit le monde, ben Mundus, l'origine de Mundus, c'est la coiffure féminine chez les Latins, eh oui. Donc c'est tout un monde, effectivement. Mais je voulais évoquer aussi un peu la face sombre des îles, mais un peu seulement. Hein, on va pas s'attrister aujourd'hui là-dessus. Mais très souvent, des auteurs vont abandonner leurs personnages sur des terres fabuleuses, bien que parfois inquiétantes, comme Shakespeare dans La Tempête, par exemple, après un naufrage. C'est un sujet prolifique. comme dit un spécialiste, c'est rassembler sur un seul endroit fictif toutes les thématiques, toutes les peurs, tous les fantasmes qu'inspire depuis toujours l'île éloignée de toute civilisation. C'est l'inconnu, le retour à la vie sauvage, l'incarcération, l'organisation Robinson, la folie. Et surtout, c'est une sorte de laboratoire d'expériences secrètes et monstrueuses. Tous nos auditeurs et auditrices ont dans l'idée des films ou des romans qui se passent dans ces endroits. Mais ce n'est pas uniquement en littérature que les îles du diable peuplent les océans. Parmi les milliers de captifs qui ont transité dans les îles de la Baltique, celles de Délos ou de Gorée, la magie avait plutôt là un avant-goût de l'enfer. Ces lieux ont souvent été le théâtre de terribles exactions. Peut-être en reparlerons-nous un jour sur ces grands migrants qui ont fait la fortune des compagnies de navigation à certaines époques. Depuis longtemps, puisque les Vikings, c'est vraiment très vieux. Eh bien, îles de justice et de pénitence aussi. Eh bien, ce sont les îles des bagnes de Guyane, par exemple. Pensons transporter des bagnes de Ré, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, sans oublier les enfants des îles du Levant. C'est tout près de chez nous, ça. D'Ajaccio ou de Belle-Île-en-Mer. En Bretagne. Par ailleurs, les questions politiques ou religieuses poussent souvent à l'exil. En 1755, fuyant le grand dérangement, lorsque leur province est passée sous domination britannique, les Acadiens furent déportés dans les îles de la Madeleine, celles du prince Édouard, ainsi qu'aux Malouines. Petit coucou aux îles de la Madeleine, où il y a un grand festival de chansons de marins, d'ailleurs. Les causes économiques ou démographiques sont également une raison de partir de son île. Ainsi, en Orient, la domination ottomane va chasser des milliers de Rhodiens de Crétois vers les îles Ioniennes, Venise, la Sicile ou la Corse. La famille du poète grec Solomos faisait partie de cette diaspora, lui qui écrivit « Sorti des ossements sacrés des Hélènes, et forte de ton antique énergie, je te salue » aux libertés. Et on estime à 70 000 le nombre de Domiens qui ont quitté leur pays d'origine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, via le Bumidôme. Eh bien, voici maintenant le moment d'accoster à Montpellier sur Radio FM+, après ce voyage dans les îles. Christian Malaplate, un dernier mot ?
Alors, de parler de mer, ça me fait penser à mes ancêtres qui ont pris un bateau avec beaucoup de migrants, justement à Bordeaux, pour se rendre en Argentine. Ils ont mis 64 jours de navigation. Et ce qui fait que on a toute une série de gens, justement, de la région de Tarbes, du Gers, de l'Ariège, de l'Aveyron, même de l'Hérault, qui ont sont partis s'installer en Uruguay, au Paraguay, au Chili et en Argentine. Et j'ai une pensée pour eux parce que c'était quand même une aventure maritime incroyable. Les conditions de vie à bord aussi et les différentes escales. Et on ne savait pas trop s'ils allaient pouvoir repartir. Et l'installation en Argentine. Et après, une fois installés en Argentine, ils ont fait plus ou moins fortune. Et ils sont revenus en France, c'est de là que je... Mais j'ai des origines argentines, du côté de Rosario.
Eh bien voilà, il y a un grand poète qui a travaillé à accompagner les émigrants, à une époque, sur les navires.
Ouais.
Tu vois ?
C'est Pablo Neruda.
Ah non, Blaise Cendrars.
Ah oui, Blaise Cendrars, oui, oui. Non, lui, c'est, lui, c'est fameuse, sa fameuse malle.
Et donc, il a travaillé sur des paquebots ouais. En accompagnant des, ouais. des migrants pour une compagnie maritime. Un grand voyageur, lui aussi, n'est-ce pas ?
On avait et fait Neruda aussi, il avait oui. amené beaucoup de réfugiés oui. par l'intermédiaire des bateaux en Argentine absolument. Ou au Chili.
Absolument. Eh bien, puisque nous pouvons encore souhaiter la bonne année à vous toutes, à vous tous.
Et bonne année,
à toute l'équipe aussi, et puis à mon invité. Et bien une pensée particulière donc pour une petite île et ses habitants qui reçoit cette petite île reçoit des milliers de migrants en Méditerranée là maintenant toujours et cette île est devenue célèbre parce que elle accueille tous ces gens venus de partout avec beaucoup d'humanité elle accueille toute la misère du monde elle s'appelle Lampedusa. Eh bien, écoutons Michel Arbatz nous chanter Lampedusa Bonne année, Michel.
Au bord de la falaise, au bout de l'île, le vieil homme est assis face à la mer, jalouse. L'homme qui scrute les zodiaques à la file, c'est le marquis de Lampedusa. Sur l'arbre du soleil, le Christ est immobile, c'est un calvaire en bois taillé à l'andalouse. Le phare de Lampione s'est fermé comme un signe pour ne pas voir ce que la mer épouse. Ah, dites-moi d'où Jésus, car j'ai la vue qui baisse, dit le vieux, tourné vers le bleu du couchant. Combien sont-ils ce soir? Est-ce qu'il en reste qui viendront jusqu'à nous, dit-il en touchant le bois de la Sainte Croix. Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous fait? À quelle fourche avons-nous perdu le chemin? Si nous voulons que tout reste pareil, faisons en sorte que tout change. Et ces enfants qui volent dans la mer, sont-ils des anges morts? Qui a poussé d'Afrique à coups de cornes ces radeaux de méduses et ces rafiaux qui rouillent? Ces hommes en grappe, des bancs de loups les lorgnent, au fond des filets qu'on démouille. Pauvre parc à fluo, hommes balisent les corps mangés au fioul et jetés sur les grèves. Armés du rien, voyageurs sans valise, leur vie pour monnayer le rêve. Si nous tenons fermés nos bras et nos frontières, d'où Jésus, dites-moi, nous qui étions des lions et de flambants guépards, viendront les hyènes, les chacals, les moutons, et tous se considèrent pourtant le sel de la terre. Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous fait? À quelle fourche avons-nous perdu le chemin? Si nous voulons que tout reste pareil, faisons en sorte que tout change. Et ces enfants qui volent dans la mer, sont-ils des anges?